por ali pela porta para eles levarem a bagagem.
Dear colleagues, may you...
Chers collègues, est-ce qu'on peut reprendre les travaux?
Nem esse quem é que morre. Quem é que... So, dear colleagues, may we talk...
Chers collègues, alors on va essayer de reprendre les travaux. Nous en sommes au point 9.3 concernant les amendements au statut et règlement de l'UIP. Nous avons trois amendements. Une proposition par le comité exécutif concernant les jeunes députés, les jeunes parlementaires. L'autre groupe soumis par le président de l'UIP. Et troisième par la région et fédération. Donc, après cela, il y a beaucoup de sous-amendements. Mais voilà les amendements que nous avons. En ce qui concerne les jeunes parlementaires, avant de passer la parole à vous, les jeunes parlementaires, donc, cet aspect n'est pas nouveau. Nous avons déjà eu une discussion en ce sens à Saint-Pétersbourg, si vous vous souvenez. La proposition nous permet d'agrandir la délégation, d'avoir plus de temps de parole si on inclut dans nos délégations respectives un jeune parlementaire. Le président de l'UIP a soumis des amendements donc on peut regrouper sous trois groupes. Un groupe concernant les statuts de l'UIP, un autre concernant la stratégie de l'UIP, et finalement, la langue. Fédération, cela concerne la langue. Donc voilà plus ou moins les amendements qui ont été soumis. Je sais aussi que le président est disponible à se réunir à Genève afin de présenter... On peut lui présenter les amendements si vous êtes d'accord. Alors, donc, vous avez la parole concernant les amendements. Est-ce que vous désirez vous exprimer là-dessus? Christine. Oui. Est-ce qu'on parle de tout ou est-ce qu'on parle seulement de ce sujet? Alors, bien sûr, c'est la méthodologie. On peut séparer, si vous voulez, on peut... ne pas rassembler tous les amendements ensemble, mais premier amendement concernant la participation des jeunes parlementaires. Est-ce que vous désirez vous exprimer là-dessus? Non, d'accord. Donc je crois que ça c'est bien. Deuxième groupe concernant les amendements soumis par le président de l'UIP. Est-ce que quelqu'un désire s'exprimer là-dessus? Chris. Christophe. Oui, je dois vérifier pour m'assurer que je dis le bon nom. Lorsqu'on était, il y a une semaine, lors d'une réunion, on a parlé de cette situation. Je n'ai pas du tout aimé cela, parce que c'est un problème entre deux individus. Et ce problème a donc donner lieu à cette façon de résoudre. Et pour moi, il ne s'agit pas de Gabriella ou Martin. Il ne s'agit pas des individus, des personnes. Pour moi, il s'agit de l'organisation. On doit avoir des statuts qui fonctionnent et des règles qui fonctionnent, indépendamment de qui est-ce qu'on a élu. Ça, j'aimerais clarifier cela. Je n'ai aucun problème pour changer les statuts ou les règles, si c'est mieux pour l'organisation. Mais je ne veux pas avoir des nouveaux statuts qui vont rendre les choses plus difficiles pour l'organisation. Donc, c'est mon point principal. Maintenant, j'aimerais parler des différentes suggestions. J'espère que vous vous souvenez. Je veux parler de la stratégie. Je n'aime pas une stratégie qui a déjà 3 ans. Pourquoi ? Je ramène ça à moi-même. Lorsque je parle des autorités en Suède, j'essaie de leur faire comprendre que l'UIP est une bonne organisation et qu'on essaye de... Il faut qu'on contribue. Une stratégie. On a besoin de nouvelles stratégies, mais pas de nouveaux programmes. On donne l'argent à l'organisation pour rendre possible la réalisation de la stratégie. On fait cela d'une manière qui est basée sur une discussion concernant la stratégie. Et si on travaille ensemble, et si cela va dans le sens de ce que veut mon pays, ce qu'on veut aussi pour le reste du monde, même si c'est une stratégie vieille de 3 ans, pour nous, c'est la fin d'un cycle de 3 ans de contribution. Parce que on devra voir la stratégie, on devra avoir une discussion qui peut prendre quoi, 6 mois, quelque chose du genre. Ensuite, on prendra une décision. Et tout à coup, il reste seulement 1 an ou 1 an et demi concernant cette stratégie. Donc on ne peut pas donner de l'argent pour du long terme. Moi, j'aimerais avoir une stratégie sur 5 ans afin que l'on puisse approcher les autorités et faire en sorte que nous ayons des financements, des contributions volontaires à long terme. Donc je crois que ça, c'est une mauvaise approche pour nous, c'est une mauvaise suggestion. On ne peut pas donner l'argent comme on le fait aujourd'hui. Souvenez-vous qu'on donne 10% de notre budget d'aujourd'hui à l'UIP. Je voulais juste exposer le problème que l'on crée avec cette proposition. Je n'aime pas le fait que on parle du président lorsque l'on parle de la stratégie. Parce que pour moi, il ne s'agit pas du président, il s'agit de l'organisation. Lorsque la décision doit être prise, elle ne doit pas être prise dépendamment de l'élection de nouveau président. Donc, ça, je n'aime pas ça non plus. En ce qui concerne la responsabilité, les responsabilités, le premier problème, encore une fois, je vous demande de ne pas rendre les choses encore plus difficiles pour votre organisation et pour son travail, parce que on a une organisation qui a une ex-com qui est censée travailler avant, mais aussi pendant les réunions. Il pourrait donner l'occasion et la responsabilité au président, au vice-président et aux 6 vice-présidents sur la manière dont on pourrait gérer ce travail. Ne rendez pas le travail encore plus difficile. Au contraire, rendez le travail plus facile. Il ne faut pas tout mettre dans ses statuts et ses rôles parce que, en fait, vous les contraignez au lieu de les aider, d'après moi. Hein. Donc, voilà quelques remarques que je voulais vous dire. Alors, voilà, j'attends d'autres remarques. Merci. Merci beaucoup. Margaret?
Donc, chers et chers collègues, je n'étais pas à New York pour les auditions. Par contre, je partage beaucoup d'éléments qui viennent d'être dits par mon préopinant. En ce qui concerne la position de la délégation suisse par rapport à ces amendements, nous avons, comme d'autres délégations, également adressé une lettre en date du 14 février que vous trouvez dans la documentation. Étant donné que les amendements proposés notamment par notre présidente, que nous estimons beaucoup, ces amendements ont une grande portée sur l'avenir de l'UIP. Nous pensons, comme mon homologue suédois, qu'il ne faut pas compliquer les choses, qu'il ne faut pas non plus personnifier les choses. Je ne vais pas entrer sur le fond. Je voudrais simplement vous faire part de notre recommandation sur la procédure. Sur la procédure à suivre, la délégation suisse, confrontée à la multitude et à la portée des amendements présentés le dernier jour du délai possible par notre présidente nouvellement élue, vous propose et vous recommande donc de présenter une recommandation de la part du groupe des 12+, de la part de notre comité directeur du groupe 12+, de recommander au comité exécutif de créer un sous-comité composé de représentantes et représentants de tous les groupes géopolitiques. Ça peut être même un groupe relativement petit, un sous-comité relativement petit, mais où des représentants et des représentantes qui adorent faire ce travail, ça peut être des juristes, des constitutionnalistes ou d'autres personnes, bien sûr, déléguées par les groupes géopolitiques, qui analysent d'ici l'automne cette multitude d'amendements et de sous-amendements auxquels nous sommes confrontés et qui présentent leur analyse et leurs propositions qui résulteraient, après analyse soigneuse, au comité exécutif en automne. Voilà une marche à suivre qui nous semble être soigneuse, pragmatique, ne pas tirer les choses en longueur, mais analyser soigneusement. Je prends juste le point des langues. En augmentant les langues de travail, par exemple, il y a déjà dans la documentation des estimations de coûts supplémentaires. Si en automne, l'Assemblée d'automne serait d'accord d'augmenter le nombre de langues de travail, bien évidemment, il faut que ça puisse correspondre aux rubriques correspondantes dans le budget de 2019. Sans ça, il faudrait que ça puisse correspondre au plan financier pour 2020. Voilà. Donc, allons-y, mais soigneusement, avec l'institutionnalisation d'un sous-comité du comité exécutif. Merci. de votre attention.
Thank you very.
Merci. Tout d'abord, tous nos statuts et les amendements sont présentés d'après nos statuts 3 mois avant l'Assemblée. Donc ce n'est pas à la dernière minute, on a le temps de lire, d'étudier, de discuter tout cela 3 mois avant l'Assemblée. Et tous les membres de l'UIP ont reçu et reçoivent les amendements et ont le temps donc de présenter des sous-amendements en tant que délégation. S'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, c'est le temps, parce que 9 semaines avant, c'est une date butoir, c'est 9 semaines avant l'Assemblée. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fait d'une manière clandestine, c'est très ouvert. Mais évidemment, les statuts, ce qu'a proposé le président, je sais que cela changerait beaucoup, changerait la procédure de notre institution, et je sais que cela, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. On va discuter de cela encore à Genève et aussi à l'avenir. En ce qui concerne la langue, en tant que membre de la présidence et présidente de la délégation portugaise, j'espère que tous les parlements et toutes les délégations, et aussi j'aimerais dire à tous les ambassadeurs portugais à travers le monde. Pourquoi? Parce que tout d'abord, je pense cette lettre, c'est la même. C'est une lettre qui a été envoyée à tous les parlements et c'est la même lettre. C'est juste un exemple. Pourquoi? Tout d'abord, le président, pendant la campagne, sa campagne, a dit, et elle l'a dit aussi à la réunion 12+, certains d'entre vous y étiez à Saint-Pétersbourg lorsqu'elle a dit qu'elle allait le proposer. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, elle l'a déjà dit. Elle a été élue avec 80% des votes. Après cela, on peut comprendre que c'est très important. Et donc, maintenant, le comité exécutif à Genève, on a fait une petite transformation, si j'ose dire, et on a oublié la langue officielle et on a proposé d'avoir des langues de travail. C'est complètement différent. Parce que les langues officielles, cela veut dire que tous les documents doivent être traduits. Les langues de travail, ce n'est pas par rapport à la traduction des documents de travail ou du site internet. Il s'agit seulement d'assurer l'interprétation, et ça c'est différent, c'est plus facile à comprendre. Mais bien sûr, il reste le coût. Et c'est pour cela qu'on pense aux règles. Comment est-ce qu'on peut recruter le personnel? Moi, j'aime travailler avec des chiffres et non pas seulement avec des mots. On a décidé de demander à différentes entreprises de nous soumettre des budgets à des programmes. Un programme, par exemple, à Genève. On a pris le programme du mois de mars à Genève, et on a dit, si on a ces langues, combien est-ce que cela coûterait? Avec des agences accréditées. Et la facture est moins élevée que ce que paye l'UIP en ce moment, avec moins de langues. Donc, si on veut économiser de l'argent, en excluant le portugais, on peut déjà économiser de l'argent à Genève dans 3 semaines. C'est possible. Il suffit de recruter le service directement. Et on a fait la même chose aussi avec notre groupe 12+. À Saint-Pétersbourg, on a payé 5 300 euros pour l'UIP, pour avoir le français et l'anglais. Maintenant, on a décidé de recruter directement. On va payer 2 000 euros. Donc, il est possible d'économiser si on désire avoir plus de langues et de dépenser moins. Évidemment, je comprends que si on fait la même chose que jusqu'à maintenant, on aura besoin de plus d'argent. Si on va recruter les mêmes équipes et avec le portugais en plus, cela coûtera plus cher. Si on est prêt à changer la manière dont nous recrutons le service, eh bien nous allons économiser de l'argent. Je comprends très bien qu'il est mieux de faire comme toujours. Si on veut rester comme toujours, eh bien, on aura besoin de plus d'argent. Christine. Pour moi, quand on parle de traduction ou d'interprétation, ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Pour moi, tout d'abord, il s'agit de la qualité. Deuxième chose, c'est l'argent. Parce que je ne veux pas voyager avec ma délégation partout à travers le monde en payant des millions à chaque année pour avoir une mauvaise traduction, une mauvaise interprétation. On verra cela. Et au mois de décembre, ce n'était pas terrible. Mais c'était le pays qui accueille, qui a pris en charge l'interprétation. Et ce n'était pas très bon. Donc, je veux être sûre. Et d'après moi, si on veut faire cela, on parle de comment est-ce qu'on l'organise d'abord. Tout d'abord, il faut avoir un contrat pour voir qu'est-ce qui va se passer si on change de système. Je me souviens lorsqu'on avait un candidat à l'époque et je lui ai demandé lors de notre réunion 12+, comment est-ce qu'on était censé payer pour davantage de langues. Et elle m'a dit, eh bien, cela ne coûtera pas plus cher qu'aujourd'hui. D'accord, alors fournissez le service d'abord. Et ensuite, je pourrai accepter la proposition. Parce que je veux voir comment ça fonctionne avant de prendre une décision. Parce que ce que je ne veux pas, c'est dépenser beaucoup d'argent sur la traduction. Je veux dépenser de l'argent sur des activités. Des activités que on aura décidées. Et c'est ça ma fonction en ce qui concerne l'UIP, au sein de l'UIP. J'ai vu cela déjà, j'ai vu cette lettre et je peux comprendre. J'aimerais avoir toute l'information en suédois, mais c'est pas possible. C'est possible. Au contraire, si on est prêt à payer le prix. Donc je me demande, et je peux poser la question au président maintenant, je comprends les arguments. Combien sont prêts à payer les pays lusophones pour avoir ce type de service de traduction et d'interprétation par leurs moyens? Parce que c'est facile de le demander lorsque c'est quelqu'un d'autre qui paye. Mais si 6 ou 8 pays sont prêts à dire c'est tellement important, combien sont-ils prêts à mettre pour ce service? Voilà. Je vous donnerai la réponse. Tout d'abord, pour l'instant, nous le payons nous-mêmes. Ce sont les pays lusophones qui payent l'interprétation envers le portugais. on a un budget, on respecte le PNB de chaque pays. Bien sûr, le Brésil, le Portugal payent beaucoup plus que le Timor oriental, par exemple. Mais nous arrivons à couvrir nos coûts nous-mêmes. Donc pour l'instant, ce n'est pas un problème. Mais ce que l'on pense, et vous avez ici des documents que vous nous avez demandé, qu'il est possible, avec un peu d'argent et avec, bien sûr, la qualité est très importante. Si j'invite un ami de l'école ou un voisin pour faire l'interprétation, la qualité ne sera peut-être pas assurée. Mais si on recrute des agences accréditées, des entreprises accréditées avec une assurance de qualité, eh bien là, je pense que c'est possible. C'est pour cela qu'il y a deux possibilités. Soit on garde les mêmes langues avec la qualité et on économise l'argent maintenant, ou alors on paye la même chose que ce qu'on paye maintenant et on a plus de langues. C'est possible si on recrute directement. Si l'UIP va sur le marché et demande des propositions, fait des appels d'offres, si on fait ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je sais? Il y a deux personnes. On demande à ces deux personnes de toujours d'inviter d'autres personnes à rejoindre l'équipe. Est-ce que c'est la bonne manière de procéder? Peu importe, personne ne s'en préoccupe, mais c'est ce qu'on paye maintenant. Mais je vous demande de vous prononcer. Ce ne sont pas les seuls amendements que nous avons. Chers collègues, oui, beaucoup de choses ont déjà été dites. J'ai quelques commentaires en ce qui concerne tout d'abord. Donc, la délégation belge tient la position qu'elle a prise concernant la proposition qui est la même que celle des autres délégations présentées, des sous-amendements, des commentaires. Changement aux règles à notre organisation, eh bien, cela nécessite un consensus. Et ces questions ne peuvent faire l'objet que des stades finaux des discussions. Il faut déjà en discuter et s'assurer que nous avons un consensus avant de les mettre en œuvre. Les amendements ont été présentés sans aucune autre justification. Nous voulions ensuite nous réunir, nous voulions aussi nous soumettre à la date butoir, donc avant de discuter ces questions. Avec nos collègues, le président de l'API a expliqué les motivations à New York et toutes les délégations, bien sûr, ont le droit à des explications. Ces discussions peuvent être complétées. Nous espérons que ces conclusions pourront être établies avec un consensus. La Belgique ne veut pas remettre à plus tard, juste pour remettre à plus tard, mais nous serons contents de pouvoir voter en faveur des amendements ou des sous-amendements. Mais il y a un problème. Une semaine semble longue, mais ce n'est pas si long que l'on pense. Tout d'abord, il y a des groupes politiques qui ne vont se réunir qu'après la première réunion du comité exécutif. Donc toutes les conclusions suite à cette première réunion seront indicatives. Deuxième chose, les groupes, si on suppose qu'ils arrivent à des conclusions fermes, n'auront pas nécessairement des points de vue identiques. Un compromis devra être trouvé et il faudra aussi avoir une réunion qui sera aussi où participera les groupes géopolitiques. Ensuite, un consensus devra être trouvé et devra être traduit et présenté de langue afin que cela soit clair à tout le monde. Et sinon, la session du Conseil sera un chaos. Tout cela suppose qu'un compromis sera trouvé entre les amendements et les sous-amendements qui auront été présentés parce que, d'après les règles, il n'est pas possible, même pour le comité exécutif, d'arriver avec un nouveau texte lorsque la décision doit être prise à Genève sur la base des changements précédents, ce sera un miracle, mais on peut toujours continuer d'espérer. Ensuite, il y a un problème aussi avec la personnalisation de la stratégie de l'UIP, et je ne veux pas maintenant passer à la discussion entre le président et le secrétaire général. Et la dernière chose que je vais mentionner, je ne serai pas trop long, c'est la question concernant les langues. Notre position, et nous avons aussi un nouveau document ici, je peux vous dire que notre position est très claire. Si la délégation belge doit payer davantage, eh bien, cette question sera transmise au Parlement. David.
Allez-y. Thank you, Mr. Chair.
Merci, Président, chers collègues. Beaucoup d'entre nous étaient à Genève dans la dernière réunion et selon les mots des collègues de Suède et de Belgique, même si on n'aime pas, il paraît que la perception est de qu'il y a ici un conflit de personnalité entre notre présidente et le secrétaire général. Ça, c'est pas bon pour l'organisation. Et c'est dommage parce qu'on a une jeune présidente très dynamique, énergétique, et après on a aussi un secrétaire général très chevronné, très expérimenté. Et apparemment, ils ne sont pas en train de gérer bien leur relation. Et ça, c'est dommage parce que, comme on a dit à Genève, le monde est compétitif et l'AOIP a fait des efforts pour rétablir sa crédibilité. Je sais qu'à Genève, Robert a parlé de l'idée de l'Assemblée parlementaire des Nations Unies. J'ai été informé sur cette proposition dans les paquets de réformes 2020 des Nations Unies. L'idée, c'est de créer une nouvelle Assemblée parlementaire des Nations Unies. Bon, on va voir. Mais là, je suis d'accord avec Margaret. Je crois qu'il faut baisser le volume, il faut prendre les choses avec du calme, plus doucement. Et 20% de l'UIP peut dire qu'il y a ici un problème, donc il faut les entendre parce que c'est un problème. Mon équipe de juristes à la Chambre et au Sénat a analysé, a examiné tous ces amendements et quelques-uns sont pro forma, ils sont en ordre, présentés dans l'occasion correcte. Mais je pense qu'il faut qu'il n'y a pas un choc dans les réunions à Genève. Et ça, c'est pas bon. Il y aura encore des divisions et c'est pas bon pour l'organisation. Quand on parle de l'amendement dans les jeunes parlementaires, c'est facile. La personnalité juridique de l'UIP, notre conseil général dit qu'il n'y a pas un problème avec la personnalité juridique. Vous signez des contrats à vie. Qu'est-ce que ça essaye de résoudre? Les Nations Unies ne reconnaissent pas l'AOIP comme un organisme international, donc il faut prendre ça en compte. Mais le rôle du président, de la présidente de l'AOIP, là, il y a des changements qui sont très 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 importants pour le rôle, pour le statut de la présidente, du président en général. Et ça vient secouer l'ordre actuel. Mais dire que le président va prendre en charge le quotidien de l'organisation, ça veut dire plus de temps, plus de personnel, plus de voyages pour la présidente. Ça veut dire qu'elle va prendre plus de fonctions exécutives que pour le moment c'était pour les CEO, si vous voulez, si on parle comme ça. Bon, à Genève, le problème c'est qu'on a un système de gouvernance à deux têtes. Les deux sont élus par des parlements respectifs et c'est une créature bizarre. Le CEO, par exemple, il est interviewé, il est engagé avec une autre. Mais ça, on n'a pas. Ça, on n'a pas. Les deux, ils sont élus. Donc, je pense qu'il faut prendre du temps. Il faut. C'est pas éviter la question, mais il faut suivre le conseil de Margaret, créer un petit groupe de travail, parce que. Une des choses qui est arrivée à Genève, c'est que la présidente, elle a fait une présentation très passionnée, avec beaucoup de pages, beaucoup de diapos sur ses aspirations, ses objectifs. Ça, c'est bon, elle a des ambitions pour l'organisation, mais ces ambitions n'ont pas pris en compte ce que l'AOIP était déjà en train de faire. On ne sait pas comment on peut combiner les deux choses. Et des aspirations, après, n'ont pas pris en compte aussi les coûts, prendre plus en charge de la représentation, de la formation des parlementaires, ça aura des conséquences monétaires, financières pour l'organisation. Et la question est toujours, qui va payer tout ça? Président, vous avez payé de la question des langues, le secrétariat a répondu disant que les coûts additionnels d'approbation sont 3,5 millions de francs suisses par an. Je ne sais pas si ça est réel, c'est vrai ou pas. C'est ce que le secrétariat a répondu, c'est ce que mon équipe m'a dit. Le coût additionnel. Donc, bon, encore, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'aimerais bien que ce petit comité puisse prendre ça en charge et pas le présenter tout de suite à la plénière. Donc, pour une organisation comme l'AOIP ou une entreprise quelconque, il y a deux choix. Soit on lutte pour avoir une partie du même gâteau, et c'est une option. L'option 2, c'est quand on est d'accord pour avoir un gâteau plus grand et avoir plus de recettes pour l'organisation. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est d'être fait. Je sais qu'il y a des listes de donations, des programmes. On a parlé aussi sur ça à Genève, à augmenter les sources de recettes. Mais là, après les coûts, ils sont encore plus impactants. Donc, ma suggestion est de prendre l'avis de plusieurs organisations, de plusieurs pays, qui ont dit, bon, il faut prendre du temps et il faut examiner ça avec prudence avant de aller tout de suite au plénière. C'est mon opinion. Merci. Avant de donner la parole à Robert, la réponse du secrétaire général de ce 3,5 millions de francs suisses, là, deux choses. Si on accepte la proposition du la présidente, espagnol, arabe et portugais comme langue officielle. Donc s'il y aura encore trois langues officielles, il faudra traduire tous les documents dans ces langues. Et c'est pour ça qu'on parle ici de 3,5 millions de francs suisses. Mais cette proposition n'aura pas la puis de personne, parce que nous tous, tous les membres de l'OIP ne veulent, personne ne veut plus payer plus à l'OIP. Donc, le sous-amendement qu'on a sur la table, c'est pas parler de langue officielle, mais de langue de travail. Langue de travail. Et là, l'arabe, l'espagnol seront des langues de travail, ils le sont déjà. La seule différence vis-à-vis de la situation actuelle, c'est qu'on ajouterait le portugais. Donc, français, anglais continuent comme des langues officielles pour la traduction et l'interprétation. Il y aura l'espagnol et l'arabe qui sont déjà des langues de travail et aussi le portugais comme langue de travail. On parle ici de 3 millions d'euros à peu près. Et c'est pour ça qu'on essaie de démontrer avec ces propositions qu'il est possible d'avoir une langue de travail de plus, dans ce cas ce serait le portugais, mais pourquoi pas le suédois ou un autre, sans augmenter les coûts. C'est possible. Bien sûr, on peut toujours tester, c'est important, c'est prudent. J'ai demandé des propositions. Mais si, par exemple, si on va créer un sous-comité, le sous-comité peut aussi étudier ça et faire des propositions pour qu'on est sûr qu'il est possible d'avoir une autre langue de travail sans augmenter les dépenses. C'est mieux à s'assurer de ça avant de prendre une décision. Tel que, comme Christian a dit, mais Robert, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je vais recommencer. On va d'abord éliminer les problèmes. Je crois qu'il vaut mieux voir ça comme ça. La faute revient aux gens de l'UIP qui ont pris un jour une décision dans le comité exécutif dont je faisais partie, mais à ma décharge, j'ai voté contre. Donc j'ai la conscience tranquille. Mais à mon avis, c'était quand même une erreur lorsqu'on a décidé qu'on ferait voter pour le secrétaire général. Je trouve que c'est contraire au fonctionnement des autres parlements. Nous avons tous un secrétaire général dans notre parlement. Enfin, nous en tout cas, et tout le monde au Sénat, à l'Assemblée, il n'est pas élu. Il est désigné, proposé par le président et désigné par le bureau. Mais c'est une désignation. Et donc, il est responsable de son engagement envers les parlementaires qui dirigent l'Assemblée ou le Sénat. Je pense que ça fonctionne bien dans les autres assemblées. Et nous avons, vous le savez, en parallèle à l'UIP, la réunion des secrétaires généraux. Nous avons les secrétaires généraux qui se réunissent en parallèle aux réunions de l'UIP. Peut-être les nouveaux ne savent pas tous, mais je le rappelle, il y a une réunion des secrétaires généraux. Et à mon avis, le secrétaire général devrait être et présider peut-être aussi cette réunion, ou participer en tout cas aux travaux. Mais c'est un administratif, et ce n'est pas un élu. Les responsables sont les élus. Et les décisions que nous prenons sont des décisions d'élus. Que nous prenons ici, nous sommes des élus. Donc, on a donné ce pouvoir au secrétaire général, qui est une erreur, à mon avis, une erreur de fonctionnement. Le secrétaire général est élu par l'Assemblée générale, avec plus de voix que le président, souvent, et donc se sent, et je le comprends, il se sent élu. Il se sent élu et il se sent responsable envers les personnes qui l'ont élu, comme nous sommes responsables envers nos électeurs ou nos grands électeurs. Donc, je comprends sa position. Il se dit, moi, j'ai été élu, je suis responsable devant les autres parlementaires et je prétends avoir telle et telle capacité et telle ou telle compétence pour le faire. Bien. Maintenant, mes chers collègues, il faut rester humain et normal, disons, et ne pas faire quand même des grandes histoires parce que au début, ça ne marche pas toujours très bien entre deux personnes. Qui n'a pas eu des petits problèmes avec ses assistants ou ses copains ou ses... dans un truc. Au début, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à travailler ensemble. Moi, je suis persuadé que même s'il y a eu quelques flottements et quelques petits conflits, entre guillemets, entre le secrétaire général et la présidente, je pense que c'est une chose qui devrait rentrer dans la norme dès qu'on aura fixé un peu le cadre dans lequel on pourrait travailler ensemble, où ils pourront travailler ensemble. Moi, je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'on ne va pas passer 3 ans de dispute entre le secrétaire général et la présidente. Bien. C'est à nous, responsables, que nous sommes, de faire en sorte que ça se passe bien. C'est à nous à leur dire, bah, écoutez, on est d'accord, mettez-vous d'accord là-dessus, on est d'accord sur tel point, pas d'accord sur un autre, voilà. Donc on a une certaine responsabilité. Je pense que ça peut bien marcher. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que le secrétaire général vient d'être reconduit pour 5 ans. À la fin, il va avoir encore 5 ans à faire. Donc il est là pour la durée, encore. Et donc il a intérêt aussi à ce que tout se passe bien pour l'UIP et nos relations entre lui et nous. Pas seulement la présidente. Il faut que ce soit. Ça, c'est le premier point que je voulais dire, Président. Le deuxième point, c'est, je crois que nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de tout le groupe des 12+, et pas seulement des personnes très représentatives qui sont ici, mais il faut qu'il y ait un accord global des 12+. Si je regarde ce qui se passe et les réactions, je pense qu'il faut trouver un consensus. On n'arrivera jamais à être tous d'accord sur tous les points, mais trouver un consensus pour accepter un minimum qui soit acceptable par tout le monde. Je pense, Président, que là, on a un rôle à jouer, vous avez aussi un rôle à jouer, de bien défendre la position des 12+. On est d'accord avec la Présidente, mais il faut qu'on lui explique, les 12+, c'est pas une personne, c'est tout le monde. Et là, il faut trouver un consensus pour expliquer, bien expliquer ça à la Présidente, et je crois que ça peut très bien marcher aussi. Alors, il y a des amendements, on n'est pas d'accord sur tout, bien sûr. Il y a des amendements qu'on peut modifier, il y a des choses qui sont à discuter. Bon, qui c'est qui a parlé? Je crois que c'est David qui a parlé de la personnalité juridique. Oui, mais attention, il faut bien préciser, parce que là, le texte ne précise pas très bien. Personnalité juridique pour la signature d'accords internationaux. Si on se limite à ces mots-là, ça va très loin. Parce que ça veut dire quoi, les accords internationaux? On peut signer des accords internationaux avec des pays qui nous impliqueront des responsabilités. Je veux dire une bêtise. On signe un accord avec la Corée du Nord, parce qu'on pense que c'est bien, il faut développer la démocratie en Corée du Nord. Est-ce que ça va être un point positif pour la communication de l'UIP dans le monde? Je pense qu'il faut faire très attention. Il faut que les accords internationaux n'impliquent pas une responsabilité. Je ne parle pas des engagements financiers. On peut avoir des accords internationaux qui nous impliquent des engagements financiers à respecter. Il faut être assez prudent. Sauf à préciser sur quoi portent les accords internationaux. C'est précisé un peu plus loin. Mais il faut bien le préciser au début. Je crois qu'il faut que ce soit limité à certains accords internationaux avec les organisations internationales, les Nations Unies et autres, mais dans une limite qui est... On nous a demandé, lors du dernier comité exécutif, je ne sais pas si vous vous souvenez, la présidente, on a évoqué l'avenir de l'UIP en tant qu'organisation internationale ou non. Organisation internationale ou non gouvernementale, ONG, etc. Donc on nous a demandé à Constantin Kozachev et à moi-même de vous préparer un papier que l'on finalise maintenant ces derniers jours. Et nous allons le transmettre aux membres du comité exécutif de façon à ce que vous pouviez avoir un regard et nous donner votre avis sur ce texte que nous avons. Vous verrez, c'est un texte assez équilibré et neutre dans la position. Mais donc, ça vous permettra de voir comment nous voyons. Après, c'est vous qui décidez, mais de voir comment on peut avoir la représentation de l'UIP. Je continue, Président, mais j'en ai bientôt terminé. Je voulais seulement vous préciser cela parce que ça vous intéresse. Alors, les amendements, on peut en discuter. Je suis d'accord avec Marguerite. Il faut qu'on étudie ça d'un peu plus près, de façon à ne pas adopter quelque chose immédiatement et qui provoque, après, un peu plus tard, je veux éviter de faire la même erreur que de faire voter pour le secrétaire général. Voilà. Donc, faut pas prendre des décisions rapidement, trop rapidement, qui après auront des conséquences. Et surtout, faire en sorte, Président, mais là, c'est ton travail, c'est le travail du Président, de voir qu'il y a un consensus dans les 12+, même si pas tout le monde est d'accord, d'arriver à un consensus pour ça. Mais je sais que tu vas le faire et tu vas bien le faire. Maintenant, les langues. et j'en ai terminé avec les langues. Alors, j'ai eu quelques précisions en ce qui concerne le fonctionnement de l'UIP pour le choix des trucs. Je ne parle pas du prix, mais le prix, on le connaît. Alors, c'est vrai que l'évaluation à 3 500 000 supplémentaires pour le, c'est traduction, interprète, c'est le chiffre maximum qu'on met en avant entre nous. C'est pas au compte rendu, entre nous, pour dire, ben voyez, c'est pas possible, donc c'est pas la peine d'en discuter. Non, il faut étudier, et voilà. Et là, le groupe est important. Alors, quelques précisions, si vous voulez, en ce qui concerne comment ça fonctionne en ce moment à l'UIP. Chrysler connaît une partie aussi, peut-être pas tout, mais voilà. Le prix est fixé par l'UIP. Mais attendez, je vous explique. Quand j'aurai enlevé mes lunettes. Voilà. Bon, je vais y arriver. Ça y est. Anna ne rigole pas. Bon, alors, que je vous explique. L'UIP fixe le prix. Comment l'UIP fixe le prix? Eh bien, elle prend le prix des interprètes de Genève, de l'association des interprètes de conférences internationales. Il y a une association à Genève qui regroupe tous les interprètes, et je sais que moi je me suis battu une fois en tant que président des 12+, justement, parce que j'avais besoin d'interprètes, l'UIP n'en avait pas, donc j'avais demandé les interprètes, et je me suis battu en essayant de prendre les interprètes qui n'étaient pas vraiment membres de cette association, et j'ai eu le président qui m'a téléphoné en disant que j'étais quelqu'un de pas démocratique du tout, contre les syndicats, contre le social, l'aide sociale. J'ai eu toutes les reproches de la terre. Bon, j'ai les épaules larges, donc j'ai expliqué, il coûtait moins cher. Oui, mais il n'était pas bon. Donc à Genève, il y a vraiment un syndicat très fort pour les interprètes. Mais l'UIP fixe un prix au-dessous du prix officiel. Il paie un peu moins cher que ceux que paient les autres organisations internationales de Genève. Donc, ils ont deux recruteurs qui cherchent les interprètes capables. Sur une liste de cette association, il y a toute une liste et il y a beaucoup d'interprètes. Sur la base de cette liste, ils cherchent dans la liste et puis ils interviewent des gens qui sont capables de fonctionner avec l'UIP. Sur cette base-là, ils ont un contrat, et un contrat qui oblige les interprètes à respecter un certain nombre de choses. Les heures, par exemple, y compris les dépassements d'heures. Bon, il y a certaines conditions qui sont mises dedans. Bon. Mais ça, on peut le retrouver ailleurs avec d'autres sociétés. C'est possible. Ça, c'est le point que je voulais préciser. Et donc, le contrat précise quelques conditions auxquelles ces interprètes s'engagent pour une durée assez déterminée à fonctionner. Et on les convoque lorsqu'il y a une conférence. On leur dit, voilà, vous travaillerez tel jour, vous serez payé tant par l'UIP. Ce contrat et cet engagement n'est pas lié avec les villes à l'étranger. Et l'UIP peut donc, et il le fait quelquefois, avoir des interprètes dans les villes à l'étranger. Et donc ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Si on a des sociétés, si on trouvait des sociétés à l'étranger qui puissent faire les travaux à l'étranger, pourquoi pas, tout en gardant le système. Mais on peut discuter de tout ça, bien sûr. Mais je voulais vous informer de ces précisions qui sont peut-être intéressantes pour vous. Donc, pas lié à l'étranger, un prix fixé par l'UIP à Genève au-dessous du tarif, mais je comprends que les interprètes s'assurent par un contrat du travail pour quelque temps et donc acceptent un prix moins cher. Voilà ce que je voulais dire. Et, dernière précision, ils engagent des interprètes trilingues. Voilà. Donc, c'est ce qui est la condition dans le contrat. Maintenant, après, à nous de voir, de décider. Bien sûr, tout peut être discuté, tout peut être trouvé, comment on peut fonctionner mieux, avec pas beaucoup d'argent de plus, parce que trouver de l'argent de plus dans le cadre du budget ordinaire, ça va être difficile. Et on ne peut pas s'engager à prendre des décisions pour l'avenir sur un engagement financier pour les langues, sur des budgets qui ne seront pas un budget ordinaire. Je crois qu'il serait très dangereux de prendre un engagement parce qu'il y a des pays qui vont donner de l'argent en disant « Ah ben oui, moi je vais payer, je vous donne tant d'argent, voilà ». Et puis dans un an, dans deux ans, on n'a plus cet argent. Parce que les parlements ne donneront peut-être plus, ils n'ont plus les moyens de le donner. Il y a des promesses, les promesses n'engagent que les gens qui les reçoivent, donc on verra ce que ça va donner. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais préciser. Quant au reste, Président, on a vu pratiquement tout ce qui n'allait pas. Donc essayons de trouver des solutions à ces problèmes, essayons d'avoir un consensus des 12+, et là je crois que c'est très important. Il faut qu'à Genève, on ait un consensus des 12+. Parce que nous savons par expérience que lorsqu'il y a des sujets sur lesquels le groupe des 12+ ne s'est pas mis d'accord, ça amène toujours à de mauvais résultats. Et là, je crois que Christian a raison. On est responsable pour l'avenir de l'organisation. Moi aussi, je ne renouvellerai pas mon mandat à la fin de mon mandat de sénateur dans deux ans et demi. Donc, mais je tiens quand même, après avoir passé plus de 20 ans, ça sera 22 ans à m'occuper des problèmes de l'UIP, à ce que ça fonctionne bien pour l'avenir. Voilà pourquoi, Président, je tiens aussi à ce qu'on trouve une solution et un consensus de tous. J'étais un peu long, mais je crois que c'était peut-être important de vous préciser cette situation.
Robert.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un désire prendre la parole? Je peux dire ce que David a dit avant notre réunion du groupe des 12+. Il y aura la réunion du comité exécutif. Et les nouveaux membres du comité exécutif discuteront de cela avant la réunion du 12+. Lorsque nous aurons cette première réunion, nous espérons recevoir quelque chose, le fruit de vos efforts au sein du comité exécutif. C'est dans vos mains plus que dans les nôtres, groupe 12+. Et nous avons 4 membres là et ici aussi, qui sont membres du comité exécutif. Est-ce que quelqu'un désire prendre la parole? Vous? Allez-y. Merci. Je voulais dire que j'ai beaucoup écouté les expériences dont on fait part les membres ici autour de la table, mais je dois aussi dire que lorsqu'on était à Genève au mois de mars, j'ai écouté ce qu'a dit Capelle, quelle est sa motivation pour les différents sujets qui sont soulevés, et je pense qu'il y a une partie à cette discussion qui manque, et j'aimerais soulever ce sujet. Elle a beaucoup parlé de ce qu'on aimerait, de qu'est-ce qu'on aimerait que l'UIP soit à l'avenir. Est-ce que l'UIP doit être différente et fonctionner différemment qu'aujourd'hui? Je crois que l'une de ses plus grandes motivations, la raison pourquoi elle nous a posé cette question, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'UIP soit pertinente à l'avenir, que nos collègues à la maison sachent ce sur quoi on travaille, comment nous travaillons, et comment est-ce que l'on peut être plus transparent? Comment est-ce que l'on peut impliquer plus de jeunes parlementaires? Comment est-ce que l'on peut s'assurer qu'on ne laisse pas les femmes derrière? À Genève, je disais que je soutenais son initiative. Je le répéterai encore à l'avenir. Et je vois aussi beaucoup de défis. Quelles sont les manières dont on peut formuler ces suggestions, ainsi que l'aspect financier? Et je suis d'accord avec mon collègue suédois, Christophe. Je crois qu'on pourrait dire oui à beaucoup de choses qu'on aurait pu dire oui à beaucoup de choses si on avait su comment est-ce que il serait financé. Mais je dirais que je soutiens son initiative. Je crois que elle fait quelque chose de très positif pour l'avenir. Et je ne pense pas qu'on peut tirer des conclusions ici, mais je pense que tous les membres du comité exécutif ont entendu ce qui a été dit autour de la table, et je crois que nous aurons aussi des discussions fructueuses à Genève dans quelques semaines. Ce qu'a dit mon collègue canadien, je n'ai pas peur si l'ONU fait une nouvelle organisation. Il n'y a pas trop d'organisations qui travaillent pour la paix et pour la démocratie à travers le monde. Et je crois qu'ils vont le faire. Ils vont probablement le faire. Parce que cela fait partie de la réforme. Mais, encore une fois, c'est encore plus important qu'on s'assure que nous sommes aussi pertinents pour l'avenir. Qu'est-ce que l'on doit faire? Que doit faire le président, le secrétaire général? Que doit faire le comité exécutif, etc.? Donc, ma proposition, c'est que Miss Capella, elle va rencontrer 12 plus, le groupe des 12 plus à Genève. Il faut s'assurer qu'elle est préparée en raison de cette discussion, parce que je pense que c'est, on aura la même discussion. Et il faut que l'on la rencontre avec l'esprit ouvert et qu'on comprenne ses motivations. Pourquoi elle veut faire ça? Merci. Chris. D'un côté, je suis en désaccord avec ma collègue norvégienne. C'est lorsque l'on parle des organisations parlementaires et des jeunes. Je n'ai pas peur de cela. Mais je veux savoir quel type d'organisation parlementaire il s'agit. Parce que s'il s'agit d'une organisation qui aura des responsabilités dans le domaine de la prise de décision, et là je reviens à moi-même, eh bien cela pourrait constituer un problème avec la constitution suédoise. Et si l'UIP mettait sur pied une organisation, construisait une organisation de cette manière, on ne peut pas être membre, on ne pourra plus être membre de l'UIP. Parce que c'est le gouvernement dans notre constitution qui a cette responsabilité, et je ne suis pas sûre si notre parlement, que notre parlement votera pour un changement dans la constitution afin que l'on puisse être un membre encore. Mais ça, c'est une discussion qui est ancienne, mais qui est nouvelle aussi, et une discussion qu'on a déjà eue il y a plusieurs années. Et je crois que c'est une discussion qui doit être débattue encore à l'avenir. Mais on doit être très prudent, parce que je sais que nous ne sommes pas le seul parlement dans le monde qui est dans cette position. Et nous avons décidé qu'on n'acceptera pas une organisation, l'UIP, qui va faire en sorte que l'on soit un membre de deuxième classe. Il faut que l'on soit un membre à part entière en notre qualité de membre. Donc il faut réfléchir à cela lorsque vous parlez de notre relation avec l'ONU. Ça peut être une bonne chose et ça peut être aussi une mauvaise chose. Nous allons attendre les résultats du comité exécutif. Mais nous savons aussi que, évidemment, nous avons un conflit. Tout le monde sait qu'il s'agit d'un conflit entre Gabriella et entre notre président et secrétaire général. Et je sais quelles sont les motivations du président. Elle pense que si nous sommes une organisation parlementaire, cette organisation doit être régie par les parlementaires. Et qui représente l'institution doit être aussi un parlementaire. Si, par exemple, le président n'est pas disponible, ce doit être le vice-président qui représente l'institution, parce qu'il s'agit d'un parlementaire de la Russie, de la France ou ailleurs, mais pas le secrétaire général, parce que le secrétaire général n'est pas un parlementaire. Évidemment, si on veut faire ces transformations, on aura besoin de faire davantage de réunions du comité exécutif, parce que j'ai vu de mes propres yeux que lorsque le service de l'UIP ont transmis les sujets pour les prochaines réunions sans demander à personne leur avis, ils ont décidé que la prochaine conférence, la prochaine assemblée, le sujet principal de l'Assemblée générale sera la science. Et elle a dit, c'est une conversation, j'étais présent. Elle a dit, qui décide? Le comité exécutif décidera que ça doit être la science? Non, moi je fais la proposition, parce que c'est ça qui est important à discuter. Et elle a dit, non, je ne l'accepterai pas. Je vais proposer la migration, parce que je crois que c'est un sujet plus important maintenant. C'est plus important de discuter des migrations maintenant que de la science. Et donc, c'est le type de choses qui ne doit pas être une décision du président, mais une décision du comité exécutif. Donc, le comité exécutif doit se réunir plusieurs fois, pas seulement deux fois par année, mais aussi entre les assemblées, afin de prendre ce type de décision. Si le comité exécutif se réunit entre les assemblées et prennent ce type de décision, ces décisions seront prises par des parlementaires. Le président ne votera pas au comité exécutif. Ce ne sera pas donc une décision personnelle, mais plutôt une décision du comité exécutif. Et ce sera aussi une décision du secrétariat général. C'est pour cela que je pense qu'on doit changer notre manière de travailler. Parce que si nous sommes des parlementaires, les parlementaires doivent décider de leurs règles, des règles qu'ils appliquent, de la voie à suivre, de ce qui sera discuté, des personnes qui seront invitées aux réunions, quel type de réunion on va organiser, etc. Et la mise en œuvre doit être faite par le service. Nous avons des membres du comité exécutif, mais vous devez travailler dans vos parlements respectifs, dans vos districts. Vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas à Genève. Le président n'est pas toujours à Genève non plus, mais les décisions doivent être prises par le comité exécutif. C'est pour cela que je pense que c'est ce qu'ils ont à l'esprit. Mais je pense, et je suis d'accord, on ne doit pas décider trop rapidement parce que on doit convaincre nos collègues que ce n'est pas une guerre, mais plutôt une manière d'améliorer notre organisation. S'il faut du temps pour le prouver, eh bien, donnons-nous le temps pour cela, parce que l'organisation va continuer et sera encore en vie après que Gabriela va quitter son boulot, et après que nous-mêmes ayons quitté aussi nos fonctions. Et on essaiera de souhaiter le meilleur à l'UIP. Robert.
Ça m'embête de parler toujours de mon passé, mais j'avais proposé 4 réunions du comité exécutif par an, parce que un qui peut avoir lieu avant l'Assemblée, mais entre les deux assemblées, il se passe une période de temps où le monde est oublié par les parlementaires, parce que on prend des décisions à Genève dont on est informé ou pas, après coup, de toute façon, et pas avant. On nous informe après qu'on ait réclamé l'information, on nous informe qu'on a pris cette décision. Et moi, je crois qu'il nous faut au minimum 4 réunions du comité exécutif par an, parce qu'il y en a 2 qui sont de toute façon avant les assemblées, mais juste avant, 2 jours avant. Et là, on ne peut rien changer, parce qu'on ne peut pas changer ce qui a été décidé. Donc il faut, entre les 2 assemblées, avoir 2 réunions du comité exécutif. On avait fait une étude à l'époque sur le budget pour savoir ce que ça représentait. C'est pas très cher, un comité exécutif. Parce qu'il n'y a pas de location de salle, ça se passe au siège de l'EIP, le personnel est sur place, on ne le déplace pas. Il y a seulement quelques interprètes à payer et on ne traduit pas dans toutes les langues de toute façon. Donc c'est assez facile à faire. Donc c'est faisable. La dépense revient au Parlement qui envoie les gens là-bas. Voilà. Donc c'est faisable sur le plan financier, on peut le faire. Et je crois que ce serait très utile justement pour suivre ce qui se passe et prendre les décisions et influencer les décisions dans la bonne direction.
Et on n'a pas besoin de changer les statuts pour ce type de choses. Il faut tout simplement améliorer la manière dont cela fonctionne. Peut-être que lors de la prochaine réunion du comité exécutif, une personne parmi vous pourrait le proposer. Et après, on décidera. Est-ce que l'on peut avancer? Merci. Donc maintenant, nous allons passer au prochain point. Nous n'avons pas encore reçu d'informations officielles de la part de l'UIP. On ne sait pas, par exemple, si certains de nos collègues ne sont pas membres ou sont encore des membres parlementaires. Parce que parfois, cela arrive. Ce que l'on a maintenant, ce sont les mandats qui termineront fin mars. Pour le bureau du premier comité, il y a deux sièges pour le 12+, deux places. Pour le deuxième comité, deux places. Pour le premier comité, deux places. Et pour le quatrième comité, une place. En ce qui concerne les questions liées au Moyen-Orient, une place. Bureau des femmes parlementaires, une place. Jusqu'à maintenant, nous avons reçu de la part de l'Espagne. Ils sont disponibles pour être membres du premier comité. Pour être occupé l'un de ces places qui est disponible. Nous avons donc 2, 4, 6, 7, 8, 9 places disponibles sur les 12. Si quelqu'un n'est pas membre ou est encore membre du Parlement, eh bien il y aura davantage de places dont on discutera. Madame Locatelli, vous avez demandé la parole. Juste pour dire que je n'ai pas soumis ma candidature. Dans 6 mois, j'ai une prolongation pour 6 mois. J'ai une prolongation pour 6 mois et ensuite je quitterai. Donc, ce ne sera pas mars alors? Septembre, octobre prochain. Pour le bureau des jeunes parlementaires. Donc, il y aura un siège de plus, une place de plus. C'est ce qu'on a jusqu'à maintenant. Est-ce que quelqu'un désire s'exprimer? Je peux répéter. Pour le bureau des femmes parlementaires, une place. Pour les questions liées au Moyen-Orient, une. Pour les jeunes parlementaires, il n'y a pas de place disponible pour le 12+. Point 10. En ce qui concerne l'Assemblée, jusqu'à maintenant, nous n'avons rien reçu, mais je crois que la Syrie, par exemple, est une question que l'un d'entre nous devra présenter. Ce qui s'est passé là-bas est complètement terrible. Margaret.
Juste mon avis personnel, moi je pense aussi, donc je peux pas obliger ma délégation, mais ce qui se passe en Syrie de plus en plus, il faudrait mettre ça au point urgent.
Robert, s'il vous plaît.
Bon, moi, je suis membre du comité Syrie. Eh oui. Donc, pour l'instant, on en est au point mort. C'est-à-dire que l'objectif était de voir les... Je vous rappelle que l'objectif, c'était de faire des propositions à notre niveau. Le niveau des parlementaires n'est pas très élevé par rapport à ce qui se passe en Syrie, puisque là, c'est le politique qui parle, et au-delà, c'est le militaire qui parle, et plus que les parlementaires. Donc, notre objectif était réduit. Et au moment où on a décidé de créer ce comité, c'était un moment où il y avait une accalmie qui pouvait peut-être permettre de penser qu'on pourrait convaincre les Syriens d'aller dans une direction plus démocratique et plus acceptable. L'objectif, donc, était de dire aux Syriens, après entretien avec différentes personnalités, y compris Stéphane Moussoura, qui, vous le savez, est le chargé pour les Nations Unies d'essayer de trouver une solution pour la Syrie, pour l'ONU, et nous avait conseillé de faire en sorte de rencontrer les gens de la région, l'opposition et les Syriens, pour arriver à terme, si on y arrive, si on y arrivait, mais c'est futurologie, essayer d'expliquer aux Syriens qu'il leur faut modifier la Constitution et avoir des élections, avec une loi électorale. Deux ambitions assez élevées. Pour la bonne raison, c'est que Assad, le président Assad, lui, ne veut ni bouger la Constitution, ni avoir des élections maintenant. Il est conforté parce qu'il pense qu'il a gagné la guerre maintenant. Il a gagné la guerre parce que Daesh n'est plus important, n'est plus fort. C'est pas lui qui l'a gagné, enfin ce sont les bombardements russes surtout, les Kurdes un peu, les Alliés un petit peu aussi, les Français, les gens qui participent à cette coalition contre Daesh. Et donc Assad dit, mais maintenant j'ai gagné la guerre, donc toutes vos tentatives pour essayer de me faire accepter quelque chose de démocratique sur le plan local, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui commande. On ne peut pas arriver à rencontrer les gens responsables en Syrie. Constanza Kozachev et la présidente avaient redemandé à ce qu'on puisse avoir un voyage là-bas. Eux deux pouvaient peut-être y aller. Ils espéraient tout de suite après notre rencontre de Genève du comité exécutif. Ils n'ont pas de réponse et ils ne sont pas invités à venir. Dans ces conditions, le comité sur la Syrie est bloqué. Et il est bloqué tout simplement aussi parce que la situation politique et militaire, surtout dans le pays, se développe de telle façon que pour l'instant, Assad pense toujours qu'il a gagné la guerre, mais c'est à court terme. Parce que l'opposition continue à acheter des armes et à se réarmer, et puis va continuer une guérilla dans certaines villes, avec l'extrême réponse des soldats d'Assad qui, eux, utilisent toutes les armes, y compris les armes interdites, pour, bien sûr, battre cette opposition. Le problème, c'est que la Syrie est dans cet état que, pour l'instant, nous, à notre niveau, les politiques ne peuvent rien faire, l'armée ne peut rien faire, puisque Assad est toujours dans sa position. Mais la Syrie est un pays qui est complètement ruiné, catastrophé, il n'y a plus rien en Syrie qui tient debout, les infrastructures, les immeubles et tout ça. Pour reconstruire, d'après Stéphane Moussoura, il faut 500 milliards de dollars. Et personne ne veut donner l'argent. J'ai vu Lavrov, le ministre russe, qui m'a dit « Ah ben nous, les Russes, on n'a pas d'argent à donner. De toute façon, on ne peut rien donner, on n'en a pas. » Bon. Les Américains ne donneront rien tant qu'il n'y a pas un semblant de démocratie qui est établi dans le pays. Donc ça peut durer très longtemps. Restent les Européens qui, eux, disent « Oh là là, on peut rien faire, on va pas donner d'argent tant qu'on n'est pas sûr que Assad va partir un jour, qu'il y aura un gouvernement. » Bon, voilà où nous en sommes. Les parlementaires syriens sont toujours membres de l'UIP. En Russie, nous les avons rencontrés brutalement par une discussion au milieu de la salle, d'ailleurs, qui a provoqué un peu de bruit, mais on leur a dit, écoutez, si vous voulez pas nous inviter, on n'y va pas, mais voilà notre condition. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne veut pas intervenir dans le domaine militaire et politique, on veut seulement vous dire qu'on est à disposition, l'UIP, pour vous aider pour les élections, etc., etc. Bon. Pour l'instant, point mort total, dans le comité Syrie, il est en vacances obligatoires. On va en reparler, on va se réunir, on va voir ce qu'on peut... On va réétudier toutes les choses. Peut-être que lors de l'Assemblée générale, on pourra rencontrer de nouveau les parlementaires syriens et les autres parlementaires. Les Jordaniens, ils sont favorables. Bon, quelques pays hésitent encore, comme l'Arabie Saoudite. Et l'Iran, qui est favorable, parce qu'il est membre du comité aussi. Voilà. Mais il faut rester très prudent sur nos capacités parlementaires à avancer dans ce domaine-là. Je crois que c'est une belle ambition, c'est un beau sujet, mais président, on ne va pas aller très loin. C'est mon avis personnel, là. C'est pas l'avis de tout le comité, mais vous me demandez mon avis, je vous le donne.
Bien sûr, votre opinion est très importante pour nous tous. Je pense que c'est ce que Margaret et moi-même avions dit. Il s'agit d'une question urgente parce que ce qui se passe dans la Ghouta, il y a eu une résolution qui a été approuvée par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, demandant pour une pause, une trêve, pour des raisons humanitaires. Et personne ne s'en préoccupe. Et donc, si nous avons une question urgente, je ne sais pas si dans 3 semaines, cela maintiendra l'importance qu'elle a maintenant, mais une question urgente doit par définition être urgente et doit être importante et réglée sur le coup, et non pas quelque chose qui doit faire l'objet de discussions. Donc parfois c'est mieux d'attendre pour une date avant la réunion pour décider. Mais si c'est la réalité, c'est ce qui se produit dans le Ghouta. Si nous fermons les yeux et qu'on discute d'autres questions et qu'on oublie les personnes qui meurent en ce moment même là-bas, et pas seulement le problème syrien en général, mais par exemple la mise en œuvre de la résolution qui a été voté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est quelque chose de différent.
Bon, tiens. L'urgence sur la Syrie, évidemment, ça paraît d'accord. Tout le monde est d'accord pour voir un peu de l'ordre. Mais encore par expérience, des gens ici qui ont été dans les comités de rédaction des points d'urgence de l'UIP, je souhaite bien du plaisir à trouver une résolution, un texte qui soit, je dirais même pas adopté, mais discutable ou discuté. Parce que déjà, dès que le texte va paraître, il y aura déjà des tirs de tous les côtés. Je vois mal, parce que tout le monde va vouloir être dans le comité de rédaction. Tous les groupes. Et tous les groupes ont droit à avoir des gens. Donc vous allez voir les Iraniens, bien sûr. Mais oui, vous allez voir peut-être des Saoudiens de l'autre côté qui vont, ou des Libanais. Vous allez avoir des gens comme ça. Et on va, à mon avis, peut-être je dis une bêtise, mais on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir une résolution qui veuille dire quelque chose. Alors si c'est une résolution pour dire que l'UIP demande le respect de et l'application de la résolution du Conseil de sécurité pour que l'humanitaire puisse... voilà, bon, voilà. Ça va se limiter à ça. Ça va être... 10 lignes plus tous les considérants, et on va pas aller beaucoup plus loin. Mais pourquoi pas, si moi je m'apprête au comité de rédaction si c'est nécessaire. On a l'habitude de se battre avec les gens, mais ça va être quelque chose de très difficile, et le résultat ne sera pas au niveau, voilà. Alors on peut, mais alors par contre, ce que peut faire l'UIP, c'est de faire une déclaration de la présidence qui nous présente au comité exécutif, qui donne son avis, et elle fait une déclaration au nom de l'UIP sur la situation en Syrie et demande au nom de l'UIP le respect de l'application de trucs, etc. Ça, c'est quelque chose de faisable et ça met l'UIP, ça permet à l'UIP de prendre position mieux que dans une résolution qui va être le résultat de bataille et qui n'aura pas d'impact. Je pense qu'une déclaration de la présidence au nom de l'UIP, en parlant au nom de l'UIP, un communiqué de l'UIP prenant position en disant voilà, ça, à mon avis, c'est quelque chose de faisable. Ben, c'est une proposition, mais si vous préférez un point d'urgence, déjà, il va falloir faire voter le point d'urgence. Et ça, ça va être, parce qu'il y a beaucoup de pays qui seront opposés à ça. Et on va avoir des pays, vous allez voir, quand on va voter pour le point d'urgence, il y a des pays qui vont dire, ah non, parce que c'est une implication dans le... On va voir. On est déjà passé par là, quelquefois. On a eu des résolutions sur la Syrie, mais qui ont demandé une semaine de travail, et puis le résultat n'était pas énorme.
Ok, we will wait.
On va attendre pour voir quelles sont les questions urgentes qui seront présentées. Pour l'instant, il n'y en a pas. Le comité exécutif aura une réunion avant et on attendra ces questions. Réunion du comité. Nous avons des documents concernant les comités, deux comités, qu'un concernant la paix et la sécurité internationale ainsi que l'autre concernant le développement durable, le droit, financement et commerce. Et donc, il y a aussi la résolution 12+. Lors du premier comité, c'est M. Caroni de la Suisse. Je ne sais pas si Margaret en sait quelque chose. Est-ce que vous avez parlé à votre collègue? Si nous n'avons pas d'informations, on va avancer.
Le président, je me suis pas, j'ai pas spécialement pris des préparations pour la résolution qui sera présentée par mon collègue Caroni de Suisse et un autre collègue parlementaire devant la première commission. À ce que je sais, ce projet a été longuement en préparation. Discussion. Je pense qu'il y a peut-être même des membres de la première commission qui sont beaucoup plus au courant, puisque moi je participe aux travaux de la troisième commission depuis des années. Je pense qu'il y a eu des auditions d'experts par les deux parlementaires qui ont préparé ce rapport. Je pense que jusqu'à présent, les réactions prises dans le contexte de la première commission étaient positives. Reste à attendre les amendements qui seront présentés dans le délai.
Merci. La autre commission, c'est Christa,
please. Il y aura une nouvelle décision concernant le premier comité et nous avons une proposition que nous discutons avec le secrétariat. Et notre proposition est combattre les violences sexuelles lors des missions de maintien de paix de l'ONU et au-delà. Nous verrons si ce sera un nouveau point pour 2019. Je me souviens, cela a été présenté il y a un an et le bureau du comité a dit que c'était important, mais ils vont discuter de ce sujet, mais ce serait à l'ordre du jour. Donc je crois que je peux soutenir votre proposition pour que cela figure dans le prochain ordre du jour, pour le prochain comité. Donc, je vois un consensus de ce côté-ci. Ensuite, commission développement durable, rapport de la Belgique. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, une résistance au consensus? J'ai entendu de la part de mon collègue que tout va bien avec son collègue vietnamien et que l'on peut clôturer les discussions. Donc c'est simple. Je me souviens toujours de ce débat du premier comité à Dhaka parce que ce n'était pas facile cette fois-là. Mais maintenant, c'est simple d'adopter une résolution, c'est notre comité. L'autre commission, si vous voulez prendre la parole, Chris. Oui, en ce qui concerne la troisième commission, nous avons eu une discussion au sein de notre délégation concernant ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg. Nous avons envoyé une lettre au secrétariat et au président, et nous avons aussi envoyé cette lettre à nos membres du comité exécutif parce que ceux d'entre nous qui étaient à cette réunion, eh bien, ils étaient un peu perturbés par la manière dont les personnes du comité s'étaient comportées ou se comportent lorsqu'il s'agit des discussions concernant les personnes LGBT. Il y avait des cris, des hurlements, etc. Moi, je n'étais pas là, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Et si on ne peut pas avoir une discussion démocratique au sein de l'UIP et que les gens se font crier dessus parce qu'ils ont une opinion, eh bien, cela n'est pas bien. Nous n'avons pas encore eu des retours de la part du secrétariat concernant cet incident, mais je crois que c'est assez sérieux, c'est assez grave si on ne peut pas avoir une opinion. Merci. Il y a même pire que cela. Je ne suis pas membre de cette commission, mais à l'Assemblée, lorsque le président du comité a annoncé la décision du comité, et nous avons eu le même problème lors de la plénière avec des personnes qui criaient. C'était horrible. Et la plénière a pris une décision. Je ne sais pas si elle était soutenue dans nos statuts, mais lors de l'Assemblée plénière a demandé au comité de réfléchir encore une fois. Est-ce que le comité maintiendra la décision d'avoir un débat sur ces types de questions? Parce que la décision du comité est une décision de comité. Je pense que la plénière n'a pas le pouvoir de discuter la décision du comité. Elle peut approuver les résultats, adopter la résolution, mais ne peut pas discuter ou remettre en question la décision qui a été prise au préalable. Et après la discussion, de nombreux députés, de nombreux parlementaires n'étaient pas là parce que le délai des travaux était très long. Je me souviens, notre collègue Lacan du Parlement portugais en parlait, parlait contre la décision qui avait été prise lors de la plénière. La majorité avait décidé de demander au comité de réviser, de réfléchir, de se retirer, de retirer cette question de l'ordre du jour à Genève et d'y réfléchir encore une fois. Et je pense que cela n'est pas permis par nos statuts. Peut-être que le président, il faut respecter la recommandation de la plénière, la Belgique. Je ne veux pas répéter une vieille histoire. Oui, c'est terrible ce qui s'est produit là-bas. Nous étions tout à fait surpris. Nous avons demandé au comité, au secrétariat du comité, quel type de débat on pouvait avoir à Genève. Ils nous ont envoyé une longue lettre avec toutes sortes d'argumentations. Et je conclus de cela que il n'y aura peut-être pas de distinction claire qui sera faite entre la question préliminaire, est-ce qu'on peut accepter la proposition belge, et avoir un débat concernant les questions LGBT, Q, et la question substantielle de cette discrimination contre, la discrimination contre les personnes LGBT. Je pense que, puisque la question est déjà à l'ordre du jour, même si c'est sous une forme non conventionnelle, je crois que la présidente voudra peut-être séparer clairement ces deux questions. Et les personnes dans leurs interventions vont traiter de ces questions ensemble. Ce qui veut dire qu'un scénario proposé, il est possible que quelqu'un, il se peut que cette session de mars pourra être considérée suffisante. Et ce n'est pas pertinent ou nécessaire d'avoir un point extra de l'ordre du jour pour traiter de ce sujet et qu'il faudra le retirer formellement. Ça, c'est ce que je cite. Donc, on doit vraiment profiter de l'occasion qui nous sera donnée à Genève puisque la délégation belge devra présenter sa proposition encore une fois. On va tenir compte de ce fait et on va donner une présentation plus élaborée que l'on l'a fait à Saint-Pétersbourg. On va parler aussi de la question substantielle et non pas de la justification ou pourquoi on doit en parler au sein de l'UIP. Je vais profiter de l'occasion pour dire que il faudra... je demande justement à autant de délégations du 12 plus que possible pour être présent à cette réunion et parler des nombreux aspects de violence et discrimination contre la communauté LGBT et que peuvent faire les parlementaires pour lutter contre ça.
Thank you. Of course.
Merci. Bien sûr qu'on va discuter dans notre première réunion à Genève avant l'Assemblée générale et les autres réunions des comités. On va demander aux collègues d'être présents. Mais il y a quelque chose qu'il faut discuter. Hein. Il faut avoir quelque chose pour discuter. Si le groupe n'est pas d'accord avec la décision d'un comité, le groupe peut présenter un recours à l'Assemblée et avoir une deuxième discussion. Et comme ça, si c'est la procédure, ça va prendre jusqu'à l'éternité. Je me souviens jamais d'une telle chose arriver. Mais si c'est la règle pour l'avenir, bon, il faut prendre compte. Bon, alors, on n'a pas changé les statuts, mais il y a une nouvelle règle. Si on n'est pas d'accord, on va au plénière pour demander une deuxième votation. Et là, on essaierait de changer les résultats parce qu'on n'était pas content du résultat la première fois. Je crois que ce n'est pas une règle. Le président a dit que c'est comme ça, l'Assemblée c'est très bien et c'est toute l'histoire. Oui, si, parce que la discussion était aussi mauvaise qu'on a essayé de la terminer aussitôt que possible parce qu'il y avait des pays africains, des pays arabes qui... le comportement n'était pas très très joli. Merci, président. Une question que j'aimerais soulever ici, après l'annonce de qu'un groupe de haut niveau contre le terrorisme avait été créé sous les auspices de l'AOIP et l'Agence des Nations Unies contre la drogue et la criminalité organisée. Bon, il y a une liste, je suis membre de ce groupe consultif, Margaret aussi, je pense que le vice-président aussi. Bon, quand on était à Genève, quelque chose de peu usuel est arrivé. Le comité exécutif a apparemment approuvé l'addition de quelques représentants dans ce groupe de combat au terrorisme, il y a la criminalité et deux autres pays sont entrés à l'Iran et l'Algérie. Depuis ce moment, il y a eu des réactions des membres du 12+. J'ai parlé avec Margaret, j'ai parlé avec les collègues d'Australie, de la Nouvelle-Zélande, aussi l'ambassadeur américain à Ottawa, président du Parlement du Knesset à Israël aussi. Il a écrit une lettre à Gabriela Cuevas se demandant comment ça avait été possible. C'est une question très controversielle et j'aimerais avoir votre réaction. Qu'est-ce qu'on peut faire si on doit faire quelque chose? Mon gouvernement a retirer tout l'appui à ce groupe d'au niveau du fait qu'il y a Iran dans le groupe. On avait considéré la possibilité de financer ce groupe, mais maintenant c'est hors question. Il y a un mois, on a fait un rapport sur la situation en Iran. Iran en tant qu'État qui patrocine le terrorisme, considéré un tel par des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie. La conclusion générale est que l'Iran est le principal sponsor du terrorisme dans le monde aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce groupe? Le président du Sénat australien, avec qui j'ai parlé la semaine passée, le vendredi, il a dit qu'il cherchait un mécanisme dont le secrétaire général de la présidente pourrait reviser cette décision et retirer l'Iran de ce groupe de travail. C'est grave, c'est très grave. C'est un scandale qui peut éclater dans les médias à tout moment. Le New York Times certainement va publier quelque chose dans la première page et la question. Le comité exécutif du 12+, est-ce qu'on peut dire quelque chose avant la prochaine réunion? Il y a des preuves partout sur le rôle de l'Iran, de la garde du corps, des gardes de la révolution qui sont en train d'appuyer à plusieurs organisations terroristes partout dans le monde. Hezbollah directement. Ils sont là, les bras virtuels aussi des corps de garde de quelques organisations terroristes. Ils donnent des armes et argent à Hamas. Ils sont impliqués dans un plusieurs attentats, notamment aussi les attaques de septembre 2001 et aussi dans l'attentat à New York, au métro de New York en 2009. Tout ça selon le département d'État, depuis 1984, considérant un État terroriste, Corée du Nord, Soudan et Syrie sont aussi dans cette liste. Alors, la question encore, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça? Et le secrétaire général et la présidente peut-être peuvent réouvrir ce dossier à Genève, mais je crains que ce sera une question très problématique. Les Émirats arabes unis sont en train de financer cette initiative avec $1 million. Je ne sais pas exactement le chiffre, mais je sais qu'ils voulaient financer toute l'initiative et le secrétaire général a été a été conseillé parce que ça serait très 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 grave. Il fallait d'autres pays pour m'appuyer. Donc le président de Knesset a écrit une lettre à la présidente de l'IUP. Les ambassadeurs d'Israël partout dans le monde sont en train de faire du lobbying, par exemple près de vous, moi-même. Donc, je voulais soulever cette question ici et le mettre à discussion. C'est une question très sensible. Bon, nous savons que la décision d'inviter des pays à être membres de ce groupe, c'est une décision du comité exécutif. C'était une décision du comité exécutif. Si je suis pas correct, corrigez-moi s'il vous plaît, mais parce que c'est important d'avoir toute l'information. Margaret, s'il vous plaît.
Bon, c'est vrai, comme David vient de dire, que le lundi 5 février, après notre réunion du comité exécutif, ce groupe consultatif sur la lutte contre le terrorisme a siégé. C'est vrai que ce lundi 5 février, le groupe même s'est constitué et a élu la doctoresse Al-Kubaisi d'Abu Dhabi, présidente de ce groupe, et ma modeste personne comme vice-présidente. En ce qui concerne la composition qui touche aux membres iraniens, dans mon souvenir, et c'était ma première réunion au comité exécutif les 3 et 4 février à Genève, nous étions les 4 membres ici présents et monsieur le président Duarte Pacheco, le membre iranien monsieur Halali, qui siège depuis quelque temps au comité exécutif, a postulé en réunion, c'est mon souvenir, en réunion du comité exécutif et en présence, si je ne m'abuse, de la présidente de l'UIP, Gabriela Cuevas, Baron, que l'Iran est donc sa propre personne, monsieur Halali, membre du COMEX, devrait en tous les cas être membre de ce groupe de travail contre le terrorisme. Dans mon souvenir, il n'y a pas eu de discussion à cet égard. On est passé au point suivant. Le lundi matin, on se retrouve à 10h pour la première séance donc de 2 jours de ce groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme. On se constitue, etc. On travaille les règles, etc. On procède aux travaux. Et monsieur Halali est là. Monsieur Halali de l'Iran. Il est là, il est à la même place qu'il a occupé les samedis, dimanches pour son siège au comité exécutif. Voilà. Voilà, c'est ça les faits comme je les ai en mémoire. Maintenant, comme David, je pense que la question reste, oui, brûlante. En Suisse, je n'ai pas été contactée, bien que, ouais, enfin, j'ai pas lu la lettre de Knesset, mais bon, en Suisse, jusqu'à présent, ça n'a pas créé un incident. Mais David m'a téléphoné du Canada. Comment régler la chose? On peut pas la régler au sein d'une séance ordinaire du COMEX, puisque Monsieur Halali y siège, hein? Donc, faut trouver un moyen. Notre président du groupe 12+, peut-être un ou deux, ça suffit, le président de 12+, avec la présidente Cuevas Baron. les présidences des autres groupes géopolitiques, peut-être, je ne sais pas, il y a des personnes beaucoup plus expérimentées que moi, peut-être pour résoudre ce genre de conflits de personnes et de parlements membres. Mais je conçois que ça risque de poser des problèmes que nous ne voulons pas.
Before I give John, we have John and the...
Avant de donner la parole à John et à Robert. Alors, il n'y a pas eu une décision formelle au comité exécutif. Bon, s'il n'y a pas eu une décision formelle, l'Iran n'est pas membre de ce groupe. Avant la prochaine réunion du comité exécutif, s'il n'y a pas eu une décision formelle, si l'on a parlé mais on n'a pas pris une décision formellement, je ne sais pas comment ce serait possible. John, s'il vous plaît. Merci. Je comprends ce que mon collègue qui nous représentait ici a dit à propos de la constitution de ce groupe de travail contre le terrorisme. Je pense que c'était ce type de développement qu'il a dit que ce serait difficile, que ce serait compliqué. Et maintenant, on voit que ces préoccupations étaient vraiment consubstantié et le Royaume-Uni n'est plus membre du comité exécutif, mais j'espère que le comité exécutif trouve une façon de nous faire sortir de cette position que sera certainement très endommageuse. Robert.
Je vais être très critique. Ce comité ou ce groupe de travail, je ne sais pas comment on va l'appeler, a été créé à Dhaka, dans des conditions de réunion un peu compliquées, et on ne s'est rendu compte de rien. Ça nous était annoncé par le secrétaire général en disant oui, on a vous savez qu'on a créé un comité de une réunion de personnalités de haut niveau. Pourquoi on disait ça? C'est pas le sujet pour le terrorisme, je suis désolé. C'est parce qu'il fallait trouver, entre guillemets, un job au secrétaire général, au président sortant, Monsieur Chaudhuri. Il fallait lui trouver des activités. On lui a trouvé deux activités pour l'UIP. Mais oui, Marette, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et on lui a trouvé et ça a été annoncé devant le comité exécutif en disant on a quelque chose qui pourrait être bien, c'est un comité, etc. On a fait appel, paraît-il, à des membres. Nous, moi, je me souviens pas. Pourtant, franchement, au point de vue terrorisme, la Grande-Bretagne et la France sont deux pays qui sont concernés presque tous les jours. Nous, on se bat au Sahel, on a 4000 militaires au Sahel pour lutter contre le terrorisme. On a des experts, je suppose, qu'ils connaissent beaucoup mieux que nous, parlementaires, ce qui se passe dans ce domaine-là. Je trouve que la constitution de ce groupe de travail est quelque chose qui ne devrait pas entrer dans le cadre de nos activités de l'UIP. Premier point. Deuxième point, s'il devait y avoir un groupe de réflexion ou de travail pour lutter contre le terrorisme, mais mes chers collègues, il faut faire appel à des experts, pas aux parlementaires. Il y a peut-être un ou deux parlementaires qui connaissent bien la situation. Mais franchement, ce sont aux experts de faire ça. Qu'allons-nous apporter de plus dans la lutte contre le terrorisme, si ce n'est des affrontements politiques au sein de l'UIP entre des pays soupçonnés et des pays qui les soupçonnent mais qui les acceptent dans une discussion entre nous? Vous savez, moi, je veux bien, mais je suis totalement opposé à ce groupe de travail. Mais franchement, Marie, je te dis ma pensée, parce qu'on ne peut rien faire si ce n'est à avoir des problèmes. Et maintenant, quant à l'Iran, je voudrais vous lire le communiqué officiel de l'UIP sur la dernière réunion, le compte-rendu de la dernière réunion où les choses se sont passées. Le comité exécutif, as the executive committee, decided to expand the membership.
Le comité exécutif collectif a décidé d'étendre à l'Algérie, Colombie, Iran et nommer tout autre membre du groupe africain, autorise également le président du groupe de travail sur la Syrie et le président de l'UIP de conduire la mission de la Syrie.
At 6 p.m. on a...
C'est une décision qui a été donc prise à 18 heures.
Donc, officiellement, d'après ce compte-rendu, l'Iran est membre. Ben oui, mais malheureusement, donc il faut contester le compte-rendu si on ne veut pas. Voilà. Mais contester le compte-rendu, ça veut dire qu'il faut contester aussi l'Algérie, l'Argentine, la Colombie. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose. L'UIP, mes chers collègues, est en train de glisser vers un engagement dangereux de choses auxquelles on n'a rien à dire, rien à faire, et où on ne peut rien faire. C'est mon avis personnel. Mais non.
Tout d'abord, ce procès verbal. N'a pas encore été... Et si je comprends, il y a différentes interprétations par rapport à ce qui s'est produit lors de cette réunion. Et donc, le procès-verbal doivent être adoptés lors du prochain comité exécutif. Deuxième chose, je pense que c'est un bon exemple qui montre à quel point, parfois, des décisions sont prises à l'extérieur de l'organisation. Parce que le début du processus, ça a été prise par qui ?
On a été devant le fait. On a été devant le fait accompli. Je ne sais pas si vous vous souvenez ceux qui étaient là. C'est qu'on nous a dit ah ben oui, il y a un comité qui va se trouver. Et puis c'est le président. Le président était là. Le président sortant. C'est le président qui va diriger ça et qui va s'engager, etc. Il y a deux. Je ne me rappelle plus le deuxième activité qu'on a trouvé et qui a été annoncé, et tout le monde a applaudi le président, oui, bravo, il va faire quelque chose pour l'UIP, il va s'engager à continuer à travailler pour l'UIP en dehors de son ancien mandat. Bon, c'est gentil, c'était un cadeau de départ, mais qui maintenant est pour nous un problème d'arrivée.
Sir, please.
Si, donc, au sein du comité exécutif, vous ne pensez pas que c'était ça, cette position, vous ne devez pas agir tel que l'a décrit notre président. C'est la seule chose à faire. Si c'est une décision, eh bien c'est une décision. Margaret.
Je tenais juste à intervenir peut-être sur l'utilité ou non qu'il y ait des pays et des experts, des procureurs généraux dans les armées, etc., beaucoup plus experts que la moyenne, disons, des membres choisis selon des méthodes que j'ignore. Ça c'est incontestable. Je pense que pour répondre à Robert, il faut pas surestimer la teneur du mandat de ce groupe de travail tel que je le connais moi, et qui doit se concentrer sur les législations à mettre en place dans les parlements de tous pays membres de l'UIP afin d'harmoniser la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au niveau législatif. Donc il s'agit principalement de ça, il ne s'agit pas de concerter les les forces policières, d'intelligence, etc., armées ou non armées, au niveau mondial, voire au niveau continental, où ces problèmes surgissent. C'est ça. Maintenant, au niveau du nombre maximum, une information que je dois vous apporter, c'est que lorsque, pendant cette réunion du lundi 5 et mardi 6 février, il était donné connaissance aux 10 membres environ qui étaient présents. Monsieur Chaudhuri, ancien président, n'était pas présent. David McQuinty a dû nous quitter en cours de matinée. Mais il y avait environ 10 membres présents. Le nombre maximum pouvant siéger à ce groupe de travail a fait l'objet d'une discussion. Et la présidente élue, par cette procédure de composition du groupe, la doctoresse Al-Kubaisi d'Abu Dhabi, était, que je ne connaissais pas avant d'ailleurs, certains, oui, vous dites qu'elle est très bien, certains d'entre vous la connaissent, elle est restée absolument ferme sur le point de limiter le nombre des personnes dans ce groupe à 15. Plafond de 15 et pas une personne de plus. Donc, il va y avoir là peut-être aussi encore une certaine différence à régler entre cette décision que vient de nous lire Robert dans le compte-rendu que je n'ai pas encore vu. Je suis désolée. Et cette décision, ou enfin cette attente ferme de la présidente nouvellement nommée à ce groupe de travail, plafond à 15, qui était, à mon avis, acquiescé par les membres présents de ce groupe de travail. C'est les éléments que je tenais, dont je tenais à vous informer.
David.
Juste pour dire quelques mots concernant ma perspective. Alors, c'est aussi la question, est-ce que l'Azerbaïdjan doit rejoindre le groupe 12.5? C'est une question qui est en train d'agoniser. Moi, je vais faire une prédiction. Vous allez peut-être perdre une demi-douzaine de membres de ce groupe de travail et ce sera une grande histoire pour le UIP qui organise les activités. Beaucoup de nos pays sont impliqués, l'Iran, la traite d'armes, les activités obscures sur le web, les réseaux sociaux. C'est un acteur très puissant et l'UIP devra faire quelque chose à ce sujet. On ne peut pas tomber dans la complaisance et dire qu'on n'en savait rien. Peut-être que c'est juste une personne qui doit rapporter ça ou ramener ça au comité exécutif. C'est quelque chose d'avoir l'Iran en tant que membre et de dire que oui, il y a un travail, un groupe de travail sur le développement durable. Mais c'est une autre chose d'avoir l'Iran en tant que membre de groupe concernant la lutte contre le terrorisme. Je crois que ça, c'est très dangereux pour l'UIP. Donc voilà, merci pour votre patience et pour vos conseils. Chers collègues, si vous êtes d'accord, je dois dire deux choses. Moi, j'ai parlé avec Gabriela Cuevas et elle a exprimé ce que nous pensons à ce sujet. Les informations sont importantes à transmettre au président pour faire face à ces questions, à traiter de ces questions. Je vais faire de mon mieux. Deuxième chose, le premier point de l'ordre du jour du comité exécutif est toujours d'adopter le procès verbal de la dernière réunion. Et je pense que vous devez soulever cette question et peut-être on aura le soutien pour changer, peut-être pas changer parce que c'est une décision, mais pour changer le procès verbal et pour corriger et prendre la bonne décision concernant la participation de l'Iran à ce groupe. Et évidemment, le président peut et sait, doit savoir ce qu'on pense, notre sentiment vis-à-vis de cela. Elle fera aussi ce qu'elle doit faire à ce sujet pour prendre la bonne décision au sein du comité exécutif. D'accord ? Robert, oui.
C'est que, ça c'est le compte rendu officiel, hein, qui dit que le secrétaire général a proposé que la réunion de ce comité à haut niveau, etc., se réunisse, donc ce qui était le cas, le jour suivant, donc le lundi, et reporte la composition du groupe à la prochaine session en mars. Le débat a continué, puisque l'Algérien a pris la parole, Kozachev, etc., Ferrer Gomez, et le président, à la fin, croit penser qu'il y a un consensus et quand même pose la question s'il faut un vote ou pas. Il n'y a pas eu de décision. Elle a donc, sur la base du consensus, considéré que la proposition d'inclure l'Algérie et l'Iran dans le groupe était acceptée. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc ça n'a pas été très clair, la façon, puisque on dit on va le reporter en mars, après on dit mais non, est-ce qu'il y a un vote, il y a besoin d'un vote ou pas? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un consensus ou pas? Je crois que et là, ça reflète ce qui s'est passé, je pense. Hein? Donc la situation est vraiment un peu compliquée. Et
cela montre qu'il est nécessaire d'avoir une clarification.
De toute façon, le compte rendu doit être adopté. Et à ce moment-là, on peut demander une correction du compte rendu.
Of course.
Tout à fait.
On fera une discussion et un débat, et peut-être un vote, et à ce moment-là, on verra comment est le résultat du vote. Enfin, vous voyez que c'est un sujet qui pose problème et qui va poser beaucoup de problèmes.
Margaret ?
Oui. Tout à fait, je vois toute la problématique, absolument. Il faut s'y préparer en s'attendant à ce que M. Halali soit présent, peut-être la personne d'Algérie aussi, au sein du comité exécutif, lorsqu'on approuvera ou pas le compte-rendu. Et il faut s'attendre à l'argument que portera, à mon avis, Monsieur Halali, qui consisterait à dire que lui, comme personne, comme personnalité, aurait été nommé ou admis à ce groupe de travail et que c'est pas l'Iran. Hein. Donc, il faudra que nous nous préparions à ce genre d'argumentation.
Arguments. Okay. We have four members there.
Il y a 4 membres ici, donc il faut faire aussi le travail. Alors, on peut passer maintenant aux questions diverses. Autre question, est-ce que quelqu'un désire s'exprimer? Non. Alors, on a terminé notre ordre du jour. Merci à vous tous d'être venus à Lisbonne et d'avoir été disponibles aussi pour faire tout ce travail, et on a eu aussi une discussion sur de nombreuses questions. Je crois que nous sommes mieux préparés maintenant pour l'Assemblée générale. Nos collègues du comité exécutif ont eu cette réunion. Merci beaucoup à vous tous. Je voulais remercier aussi nos interprètes. Nous sommes un petit peu en retard et ils travaillent. Merci beaucoup pour votre coopération et pour votre travail. Je voulais juste remercier encore aussi le personnel de l'Assemblée portugaise, Ana Margarida, et aussi les autres collègues, parce que ils ont fait de leur mieux pour rendre cette réunion réussie. Et juste une dernière chose, j'ai déjà parlé avec plusieurs d'entre vous, on essaiera l'an prochain d'avoir plus de temps, parce que hier soir, pendant notre dîner, j'ai contacté notre président et il a répondu ce matin. Il est disponible pour nous recevoir cet après-midi. et puisque une partie de la délégation ne pourra pas être présente, eh bien, je les remercie évidemment, et peut-être que l'an prochain, avec un peu plus de temps, si vous le saurez d'avance, eh bien, vous organiserez vos vols différemment afin de pouvoir être reçus par le président de la République. Mais déjà, je voulais le remercier parce qu'il s'est rendu disponible. Il est disponible pour recevoir notre groupe. Donc, on a Robert.
Président, important pour vous et pour l'UIP. Vous savez que moi, je vais terminer mon mandat au comité exécutif en octobre prochain. Ce sera ma dernière réunion en octobre. Après des années de service, je serai encore pour 2 ans à peu près parlementaire, et donc j'aurai peut-être encore une activité dans l'UIP en tant que membre de la délégation française, mais je suis toujours soucieux, comme je vous disais, de l'avenir de l'UIP et de ce qui va se passer à l'UIP. Alors moi, j'arriverai à la fin de mon mandat et je ne suis candidat à rien, ni au Sénat, ni à rien du tout, mais je voulais quand même parler, parce qu'il y a des gens qui vont arriver à fin de mandat aussi, y compris le président. Le président va arriver à fin de mandat de son mandat de président du groupe de 12+. Alors, comme disent les poètes, le présent, c'est le passé de l'avenir. Donc, on est à un moment où on doit penser aussi à l'avenir. Et moi, je veux pas être inquiet sur l'avenir de l'UIP et du groupe de 12+. Et donc, ma question au président, moi, j'ai expliqué ce que j'allais faire à la fin de mon mandat, et moi, j'aimerais bien savoir ce que le président voudrait faire à la fin de son mandat de président des 12+, s'il voudrait continuer à travailler ou pas. Parce que s'il ne veut pas continuer, il va falloir trouver un volontaire qui s'engage pour que ça fonctionne. Alors, président, je suis désolé de poser la question en public et sans prévenir, mais vous savez que j'ai toujours des questions. Je suis un ancien journaliste, et donc, je suis habitué à poser des questions, donc des questions brutales quelquefois. Voilà. Donc, on lui laisse quelques minutes pour réfléchir ou pas ?
Même pas.
Même pas.
Kristen, I will answer.
J'avais quelque chose, mais maintenant j'ai soudainement 2 choses à dire, mais je serai bref. J'ai oublié. Pendant le forum du parlementaire, des femmes parlementaires, j'ai oublié de dire que nous essayons de reconnaître le mouvement MeToo lors des réunions de l'UIP. On va commencer à Genève. Et je pense que on va commencer avec la réunion des femmes et on va soulever ces questions et intégrer ces questions à l'ordre du jour. Et bien sûr, nous comprenons qu'il pourrait être difficile d'avoir des résultats lors de la réunion de Genève, mais nous pouvons commencer et peut-être que nous aurons une décision lors de la réunion de Genève en octobre. Je dis cela afin que vous ne soyez pas surpris lorsque ce point apparaîtra à l'ordre du jour. Et, Monsieur Robert, je pensais aussi ajouter quelque chose. Moi, je vais également terminer mon mandat en septembre. Je rentrerai pour mettre sur pied une organisation au sein de mon district, de ma municipalité. Et ce sera intéressant. Donc, je serai avec vous jusqu'au 24 septembre. Et je serai aussi, je participerai à la réunion nordique aussi. Mais après le 24, le nouveau Parlement sera élu et je le regarderai en tant qu'observateur au lieu d'être impliqué. Merci beaucoup. Une chose qu'il y a en politique, nous faisons des amis et les amis demeurent même après la fin des mandats. Et j'ai 2 amis ici au Portugal de tous les partis différents et maintenant je peux dire que j'ai des pays de différents pays. Et parce que l'amitié, bien sûr, c'est quelque chose qui se construit, que l'on construit, et ce sont des ponts. Nous essayons tous de servir nos pays, notre parti, du mieux que l'on peut. En ce qui concerne la question, j'essaie de lire les statuts. Par rapport à la question de Robert, j'essaie de lire les statuts rapidement pour savoir si on a une limite de terme de mandat. Mais je crois que le renouvellement des mandats est important parce que si une personne... c'est important de changer pour justement empêcher que quelqu'un soit là pour toujours. Des nouvelles idées, des nouvelles choses sont apportées. Un mandat, c'est peut-être trop court pour effectuer un travail. Donc si quelqu'un me propose cela, la délégation portugaise, je suis ouvert pour un deuxième mandat, mais juste un deuxième mandat. Je le dis tout de suite. Merci beaucoup. On va donc aller déjeuner dans notre nouveau bâtiment. Ce sera un buffet parce que c'est plus rapide. Je sais que plusieurs d'entre vous devaient repartir. Voilà.
D'accord. Allez, on met ça au procès verbal.
Thank you very much. Only you to put the question.
Elle a mis quelle pression de ses amis, comme on dit.
Yes.
Absolument. Bon, ça, il faut mettre ça dans la valise, ça va être un peu plus lourd. Oula, oui.
C'est bon. Bon.
Bon.